Bourse de Paris.
Toujours sur le 102.2 de Radio Canu, on lance donc l'entretien de Sébastien Valigna, metteur en scène de la pièce Tina.
Salut Sébastien.
Salut.
Alors comment vous est venue l'idée de faire une pièce sur la crise ?
En fait, d'où c'est venu ? Ça a commencé en 2008, en fait, quand il y a eu la chute de la grosse banque d'investissement, la banque Lehman Brothers. J'ai commencé à lire des livres d'économie. En 2008, quand la banque Lehman Brothers s'est tombée, on disait partout c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Et moi, ça fait depuis que je suis né qu'on me dit que c'est la crise. Je suis né en 83. Et du coup, je me dis comment ça, c'est la crise, c'était pas la crise d'avant, c'est quoi l'arnaque, c'est une vraie crise maintenant, avant on m'a menti, tout ça. Bon, indépendamment, on pourra reparler après de l'utilisation du mot crise, qui est sûrement un abus de langage, mais du coup, l'idée, c'était de comprendre ce qui s'était passé. Donc, j'ai commencé à lire 2-3 bouquins. Ça a commencé en écoutant la radio, d'ailleurs, une émission où il y avait Frédéric Lordon qui expliquait des trucs. Je me suis dit, mais je comprends quand il parle, donc ça doit pas être si dur. Donc, après, j'ai commencé à lire ses bouquins, puis d'autres livres, d'autres auteurs. Et en mai 2010, je travaillais avec Simon Granger, donc, qui est l'auteur du texte, sur un projet qui avait rien à voir. On travaillait avec des collégiens. Et il y a eu cette histoire de la Grèce qui était surendettée. On commençait à parler, les Grecs sont des mauvais payeurs, tout ça. Et on s'est rendu compte que la façon dont c'était traité par les médias, j'en savais peu sur l'économie, mais j'en savais justement pour savoir qu'il y avait une partie qui était extrêmement orientée, sinon mensongère. Du coup, j'ai dit à Simon, bah, si on essayait de faire un truc ensemble qui expliquerait un peu des trucs d'économie, comme personne n'y comprend rien. Et c'est comme ça que c'est parti. Au début, on voulait faire un spectacle sur l'économie en général, et au fur et à mesure, on a dû resserrer notre sujet, et on est arrivé juste à raconter la crise.
Vous aviez tous une formation de théâtre ?
Ouais, Simon est auteur, metteur en scène. Enfin, là, il se consacre de plus en plus à l'écriture. Moi, j'ai fait très très peu de mise en scène. Quand j'ai lancé le projet, j'en avais quasiment jamais fait. On avait fait des choses un petit peu collectives ou quand j'étais élève au conservatoire ou des choses comme ça. Et puis les deux autres sont comédiens. Et il y avait une scénographe aussi qui partait avec nous. On est parti une équipe de 5. Puis après, l'équipe a un peu grossi au fur et à mesure. Parce qu'une fois que le projet est parti avec Simon, du coup, j'ai appelé d'autres gens qui étaient plutôt intéressés par la question politique, quoi, les deux autres comédiens qui sont venus. Puis on a commencé à lire des choses ensemble. Simon nous faisait des propositions, on discutait du texte. On a fait beaucoup d'allers-retours comme ça pendant tout le processus.
Tina.
There is no alternative. Entrez.
C'est très joli. C'est chez vous ?
Ah non, merci, non, nous louons.
Ah, vous louez ?
Oui.
Et vous avez envie d'acheter votre maison ?
Non, non, merci, non.
Ah oui ? Bah acheter ? Étrange.
Bah,
c'est étrange, non ?
En fait, j'ai essayé, mais...
Bah j'ai sûrement quelque chose pour toi.
Non, non, ça va.
Un produit sur mesure,
non, je rêve plus à des
clé
choses.
En main.
Non, j'ai bien compris la leçon.
Ah, parfait.
Bah en fait, je suis subprime, en fait.
Justement.
Non, mais je suis pas prime.
Mais tu le deviendras sûrement. Pourquoi pas bénéficier aujourd'hui de l'argent que tu auras certainement demain, par amour ?
Non mais justement, je gagne pas assez, là. Votre collègue me l'a dit.
N'importe, les temps changent. Maintenant, nous pensons aussi aux gens comme toi, mais...
Je ne pourrai jamais vous rembourser.
J'ai un produit spécialement étudié, tu rembourses presque rien les deux premières années. Pas le temps de revenir.
Je suis même pas sûr de garder mon emploi à la fin de l'année. Là. Le patron, il a dit que les temps étaient vraiment difficiles.
Raison de plus.
Non, mais par amour, tu n'écoutes pas.
Je prête aux pauvres.
Je prête aux vieux.
Je prête aux noirs.
Je prête aux malades.
Aux fins de vie.
Aux sans-avenir.
Aux handicapés.
Aux sorties de prison.
Aux latinos.
Je prête aux chômeurs.
Aux analphabètes.
Aux célibataires.
Aux imbéciles.
Je prête aux femmes.
Mais sans garant.
Je prête sans apport.
Aux deux maisons.
Trois maisons.
Quatre maisons.
Par amour. Je te fais un prêt intérêt seulement le capital. Tu le rembourseras plus tard.
Par amour, moi je te fais un prêt ninja.
Par amour, avec la maison, je t'offre une pute.
Pour être totalement sincère, le coût de la prostituée, c'est pas vrai. Hein. Enfin, du moins, aucun document consulté n'évoque cette technique.
Ah, par contre, tout le reste, y compris le prêt ninja, c'est véridique.
Le prêt ninja, no income.
C'est t'as pas de revenu.
No job.
T'as pas de boulot.
Or assets.
T'as pas d'actifs, donc t'as rien, quoi.
T'as rien, mais si tu veux, on me prête quand même.
Par un j'en connais une.
Tu veux dire que le mec, il
s'appelle Sandrine. Non, mais arrêtez, je te jure. Non, mais c'est pas la peine. Non, mais c'est pas la peine. Là, la fin, là, c'est pas la peine. Hein? Je vous fais confiance. Je signe.
Excellente décision.
Chérie?
Oui.
Ouais, c'est moi.
Tu devineras jamais, là. À une chose folle, complètement extraordinaire, c'est complètement inespéré, mais fini la galère.
Comment?
On est riche.
Tina.
There is no alternative.
Alors revenons à la crise.
Alors la crise. Bon après, il faut savoir, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur les lectures de crise. Les économistes ne sont pas tous d'accord, ils accusent pas les mêmes personnes. En gros, nous, la lecture qu'on a en tout cas, c'est celle plutôt que partage un collectif d'économistes qui s'appelle Les Atterrés, puis qui est partagé par d'autres mondes. L'idée, c'est quoi? Au début, la crise dite des subprimes, c'est quoi un subprime déjà? C'est un emprunteur qui, a priori, n'a pas les moyens de rembourser sa maison. Ça, c'est le point de départ. Et on va avoir l'idée géniale de prêter quand même à ces gens-là qui n'ont pas les moyens de rembourser. La crise est partie de là. Donc, c'est quoi l'idée? C'est des crédits hypothécaires. Ça veut dire... On achète une maison, pendant 2 années on leur propose en général un taux très cool, ils payent presque rien. Pendant les 28 années suivantes, un taux un peu plus raide. Et donc, au bout des 2 ans, quand les mensualités se mettent à tripler, c'est pas très grave parce que si les emprunteurs ne peuvent plus payer, ils peuvent revendre leur maison. Et comme l'immobilier n'arrête pas de monter, leur maison vaut plus cher quand ils la revendent que quand ils l'ont achetée. Donc ça c'est le truc, donc c'est merveilleux parce que du coup tout le monde peut acheter des maisons, puis on n'est pas obligé d'en acheter qu'une, on peut en acheter plusieurs, 2, 3, puisqu'au bout du compte, 2 ans après, on n'a plus qu'à revendre. C'est de l'investissement quoi, on considère. Donc il va se créer comme ça une bulle dans l'immobilier, parce qu'il y a des gens qui finalement font de la spéculation immobilière à l'insu des gens qui pensent juste eux acheter une maison. Donc il y a une grosse bulle comme ça qui va se créer sur l'immobilier résidentiel américain. Alors si c'était qu'une bulle de l'immobilier résidentiel, ce serait pas propagé à toute l'économie. Le problème, c'est que les banques font ce qui s'appelle la titrisation. Alors, c'est un mot un peu barbare. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le prêt, normalement, quand on fait un prêt, on est lié à notre banque jusqu'à échéance du prêt. C'est-à-dire jusqu'à ce que j'ai fini de rembourser ou jusqu'à ce que je puisse plus rembourser. Enfin, il y a un truc, le contrat, il va jusqu'au terme du bazar. Avec la titrisation, l'idée, c'est de revendre les prêts à un tiers. Ma banque va revendre mon prêt, elle va prendre plein de prêts, elle va prendre le mien, puis celui du voisin, puis elle va mélanger, elle va faire des poules de prêts, des gros groupes de prêts, et qu'elle va revendre à des investisseurs. Bien sûr, moi je ne suis pas du tout au courant que ma banque a fait ça, la banque elle le revend, donc c'est des gros... Il y a vraiment de tout, il y a des prêts à la consommation, il y a des prêts, je sais pas, des prêts bagnoles, des prêts étudiants qui sont mélangés à l'intérieur de ces trucs-là, et donc ça fait des espèces de gros trucs, et ils définissent des règles en disant, bon bah vous choisissez, en gros imaginons que... Ce gros groupe de prêts, là, ça a la forme d'un immeuble, par exemple. Et quand un investisseur quelconque a décidé d'acheter une partie de ce groupe de prêts, quoi, de ce magma de prêts, il choisit quel étage il achète. Disons ça, pour donner une image. Si on achète tout en haut, ça rapporte moins. Si on achète les derniers étages, ça nous rapportera moins tous les mois. Si on achète en bas, ça rapportera plus. Mais imaginez s'il y a des gens qui ne vont pas rembourser parmi tous les prêts. Il y a toujours une quantité de défauts. Donc la règle du jeu, qui est contractuelle, c'est comme si c'était une inondation. On dit, par définition, c'est ceux qui ont pris les étages les plus bas qui trinquent. Donc on choisit parmi les 10 étages de notre immeuble lequel on a envie d'habiter. Si on est en bas, ça nous rapporte plus, mais dès qu'il y a un peu d'inondation, on est les premiers à trinquer. Premier étage, c'est un peu plus risqué, mais s'il y a des grosses inondations, on ramasse aussi. Voilà, un truc un peu comme ça. Donc qui c'est qui va déterminer, en fait, évaluer le risque d'inondation? Ça va être les agences de notation. Voilà, on entend beaucoup parler en ce moment, donc c'est marrant, mais c'est elles qui vont dire, bon, ça c'est très sûr, donc très sûr c'est triple A, c'est la meilleure note, c'est 20 sur 20. Si jamais c'est un peu moins sûr, 19 sur 20, c'est double A, puis simple A, et ainsi de suite. Puis en bas, elles sont au courant que c'est très risqué, donc elles disent, ça c'est, rappelez, on va mettre triple C, une très mauvaise note, il y a beaucoup de chances que ça prenne la flotte. Voilà. Donc il y a ces produits-là qui vont se répandre sur la planète entière, et en fait, il va y avoir une mauvaise évaluation des risques. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Pour faire court, les agences de notation, par exemple, elles se plantent parce que la plupart de la soi-disant science économique repose sur le fait comment on peut prévoir le futur, c'est en regardant le passé, c'est comme ça qu'ils font. Donc ils ont des bases statistiques où ils disent, en moyenne, les ménages américains remboursent 5%. Il y a 5% des ménages américains qui ne peuvent pas rembourser leurs prêts. Donc ils partent de ce principe-là. Sauf que comme les banques savent qu'elles revendent les prêts à d'autres après, elles sont vachement moins regardantes sur les gens qui vont emprunter. Donc ils prêtent à n'importe qui. Il y a des gens qui sortent de prison, on leur propose d'acheter des baraques, à des gens qui sont au chômage, enfin dans des situations financières catastrophiques, on leur propose quand même. Donc le nombre de défauts va pas être de 5, il va être de 10, de 15, de 20% sur certains secteurs.
Tina.
There is no alternative. Et puis, on a trouvé un truc absolument génial. Alors, j'ai dit Lyon, mais j'y suis pour rien. Ce sont les gars du laboratoire de recherche sur les produits structurés qui ont trouvé le truc. Un coup de génie. La chimie. Vous connaissez ? Si, si, la chimie. Transformer le plomb en or. C'est un truc surpuissant, terrible, en fait. Hein ? Ça permet de prêter à des gens dont on est sûr qu'ils pourront jamais vous rembourser sans prendre le moindre risque.
Oh oui, on va prêter, mais on va pas garder le prêt.
Alors quand on regroupe plusieurs prêts pour faire le gâteau, on fait du pooling. Quand on découpe le gâteau, on fait du tranching. Et quand on se retrouve à la rue parce qu'on n'a pas pu payer ses traites de maison, on fait du camping. There is no alternative.
Il y a des villes entières même qui seront vides. Cleveland, il y a des images très belles comme ça, où, et catastrophiques, belles et catastrophiques, où des parties de la ville qui sont complètement désertes. Il n'y avait que des emprunteurs subprime qui ne peuvent plus rembourser, les villes sont vides. Donc là, forcément, quand il y a 20% et que les agences ont dit en moyenne il y a 5%, donc cet étage-là il ne trinquera pas, bah, c'était pas 5 qu'il fallait compter, c'était 20, donc finalement il a trinqué. Donc il y a une mauvaise évaluation des risques de la part des agences. Les produits étaient très compliqués, on soupçonne des fois les agences de ne pas comprendre ce qu'elles notaient, c'est assez grave. Hein. Il y a des textes, même des banquiers qui disent qu'il fallait, les montages étaient tellement complexes, il faut plusieurs heures à des ordinateurs ultra puissants pour pouvoir savoir ce qu'il y a dedans. Et puis la troisième chose, c'est que les agences de notation sont à la fois jugées parties parce qu'elles sont payées par les gens qu'elles notent. Donc il y a risque de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que voilà, si jamais quelqu'un n'est pas satisfait par la note qu'il a eue, rien n'empêche d'aller voir une autre agence, donc au moins une des trois grandes. Si c'est pas Standard & Poor's, c'est Moody's, si c'est pas Moody's, c'est Fitch. Et... donc il y a une espèce d'arnaque comme ça, enfin arnaque c'est un peu dur, mais quand Moody's a commencé à changer les notes qui étaient liées au produit, disant finalement c'est pas aussi sûr qu'on a dit, on a mis triple A, on a un peu déconné, en fait c'est simple A, instantanément, cette entreprise, c'est une entreprise, une agence de notation, perd 70% du marché des nouveaux titres. Donc on se rend bien compte qu'elles avaient quand même tout intérêt à un moment à faire ça. Voilà. Donc il va y avoir une diffusion du risque, en tout cas, parce que tout le monde va acheter de ces super produits-là qui sont censés être triple A, donc c'est censé être super sûr, mais ça rapporte plus que le reste, en fait. Donc ça va se diffuser un peu partout. Les banques vont s'en garder une bonne partie. Tous les gens qui veulent pas prendre trop de risques, d'habitude, je sais pas moi, un fonds de pension en Norvège, des gens qui sont censés gérer la retraite de petits épargnants, tout ça, qui d'un seul coup disent « Ah ben ça c'est super sûr et ça rapporte plus, on mise », et puis ça s'écroule. Voilà. Et donc il y a un moment où il y a tout le système, plus personne sait qui a quoi. On a acheté des trucs qui sont censés être sûrs, mais en fait ça l'est pas, plus personne se prête. Il y a des banques qui s'écroulent, donc on en sauve une, on en sauve deux. Bear Stearns a été sauvé, des grandes agences qui vendaient de l'immobilier résidentiel, Fannie Mae, Freddie Mac, sont rachetées. Et puis quand Lehman Brothers tombe, à un moment, le gouvernement américain dit « Bon, cette fois, on le laisse tomber. » Pour l'exemple, il y a un truc qui s'appelle l'aléa moral. C'est quoi l'aléa moral? Ça dit juste si on assure tout le temps les gens qui prennent des risques, ils vont prendre encore plus de risques. C'est ça qui explique la franchise d'une bagnole, par exemple. La franchise, c'est quoi l'idée? C'est si jamais, chaque fois que vous avez un pet sur votre voiture, bah vous, l'assurance vous rembourse à 100%, vous n'allez plus faire gaffe, puisque vous êtes remboursé à tous les coups. Ça va vous pousser à prendre des risques. Donc on met une franchise comme ça, on fait quand même un peu gaffe, parce qu'on sait que si on a un pet dessus, ça nous coûte quand même, je sais pas, n'importe quoi, 300 euros. Donc on fait attention. Donc ça, c'est la même idée, on laisse tomber une banque, parce qu'on dit si on les sauve chaque fois qu'elles prennent des risques, elles vont encore en prendre. risque d'aléa moral. Donc au début, on peut penser que c'est une bonne idée. Le problème, c'est que quand la banque Lehman Brothers tombe, il y a tellement de paris qui ont été faits, parce que ça, c'est un autre versant de la crise très important, les gens peuvent parier sur la chute de n'importe quoi. La chute d'une banque, la chute d'un État, la chute, ça s'appelle des CDS, des produits qui ont joué un rôle très important pendant la crise, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais du coup, il y a plein de gens qui ont parié sur le fait que Lehman Brothers allait se péter la gueule, et quand ça se pète la gueule, il faut rembourser. Il faut rembourser tous ces gens qui ont fait le pari. Donc AIG, le premier assureur mondial, ceux qui supportent l'OL, tout ça, sur les t-shirts, se pète la gueule. Et là, par contre, c'est la panique, parce que si le plus gros assureur du monde se pète la gueule, c'est foutu, quoi. Plus personne ne se fait confiance. Et le problème, c'est qu'on est dans le principe fondamental de l'économie, c'est la confiance. Si on ne se fait plus confiance, plus rien ne vaut rien. Un billet de banque, il ne vaut que la valeur qu'on lui accorde tous. Ça vaut rien. C'est juste, je sais que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'avec ça, on peut échanger tel et tel truc. Donc, on est à peu près tous d'accord sur la valeur de 20 euros. Mais du jour où plus personne y fait confiance, on s'en fout bien du billet, hein. On préfère avoir un autre truc. Donc, il va y avoir une crise comme ça et ça va entraîner que l'économie va complètement se péter la gueule. Les marchés vont, du coup, vu que tout dévisse, les États relancent plein de fric dans l'économie pour rassurer tout le monde. On arrive à peu près à rassurer. On a quand même perdu 4 points de croissance. Donc la dette a complètement explosé. Puis une fois qu'on a sauvé ces banques, bah, elles se mettent à parier contre les États qui les ont sauvées.
Ma banque est mon amie, elle s'occupe de moi. Ma banque est ma mama et je lui dois ma vie. Ma banque est mon ferment, ma terre est mon sang. Ma banque est le cordon qui guide et me nourrit. Gloire à ma banque, gloire à ma banque, gloire à toi.
Tina.
There is no alternative.
Dans le spectacle, du coup, on va jusque-là. On essaie de raconter donc jusqu'à la chute de la banque. Et la suite, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on les a sauvés? Comment est-ce qu'ils se sont retournés? On va un petit peu vite là-dessus, parce qu'après, il faudrait faire un spectacle entier là-dessus. Donc, ce qu'on raconte, c'est de 2008, donc de cette crise des subprimes, jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que... Il faut arrêter de dire que c'est parce que l'État dépense trop qu'on est endetté. C'est presque un mensonge d'État. Maintenant, je sais pas, il y a plus beaucoup de gens sérieux qui le disent, mais on l'entend encore des fois à la télé.
Il s'agit plus de dépenser.
Jean-Michel Apathy.
Mais il a fallu la pression des marchés financiers, hélas, parce que quand même, ça a pu être dit avant que la dette était un problème. L'Espagne, l'Italie, l'Irlande, le Portugal, la Grèce, on n'en parle même pas, font des efforts beaucoup plus importants. La France est l'un des pays où il y a le plus de dépenses publiques, il y en a trop.
Alors il me semble que dans la pièce, on distingue des sortes de maîtres du jeu et des banques qui sont complètement fourvoyées dans les titres toxiques. Il y a quand même, comme Goldman Sachs, des banques qui savaient ce qu'elles faisaient, à peu près, et puis d'autres, comme d'ailleurs les ménages américains, qui voyaient se pointer le miracle économique à leur porte, et puis qui ont sacrément déchanté.
C'est ça, c'est un peu rigolo, c'est qu'il y a toujours, quand il y a des bulles, il y en a qui sont du bon côté et du mauvais côté. Une bulle spéculative, c'est quoi? En gros, dans l'absolu, je ne parle pas spécialement des subprimes, c'est l'idée de la spéculation en opposition à l'investissement. On essaie un petit peu d'expliquer ça dans le spectacle. L'investissement, c'est quoi? J'achète un morceau d'une entreprise. Donc je donne de l'argent, je confie une part de l'argent à l'entreprise, elle va faire des bénéfices, cette entreprise, enfin j'espère, a priori, et elle va me rendre un petit pourcentage de ses bénéfices, puisqu'elle l'a réalisé grâce à ce que je lui ai prêté. Donc là, on est dans l'investissement. On ne remet pas tant ça, nous, en cause dans le spectacle. Après, on peut discuter, dire qu'il faut abattre le capitalisme, mais ce n'est même pas ça notre objet. L'objet, c'est plus de questionner la spéculation. La spéculation, c'est quoi? C'est j'achète un objet et j'espère simplement de le revendre plus cher que ce que je l'ai acheté. Donc ça crée des... C'est-à-dire, je peux très bien acheter un truc qui n'est pas du tout à la bonne valeur. Si je sais que je vais le revendre plus cher simplement parce que je sais qu'il y a un plus con que moi qui va être d'accord pour le faire, je peux lui revendre. Et si ce plus con que moi, bah, lui aussi, il pense pouvoir le revendre, il le fait. Et donc, du coup, c'est comme ça que les prix montent, parce que s'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a des types qui sont capables d'acheter 110, puis 120, puis 130, puis 140, même si on sait que c'est complètement déconnecté de la vraie valeur, l'important, c'est pas la vraie valeur, on s'en fout bien. L'important, c'est à combien je vais pouvoir revendre. Donc les mecs se mettent à faire des paris comme ça sur des... Et du coup, l'idée, c'est qui va se rendre compte à quel moment que tel produit ou tel produit qu'il faut arrêter, quoi. C'est un peu comme un mystérie, quoi. Au bout d'un moment, il y en a un qui se retrouve avec le truc, et puis il n'y a plus personne pour acheter le produit qu'il a, qui espérait revendre à un autre plus con, puis il n'y a plus de plus con, c'est lui le plus con, parce qu'il a gardé son mystérie dans la main. Voilà.
Vous êtes toujours sur 102.2, Radio Canu, l'émission Angle Mort. Aujourd'hui, la pièce Tina, There is no alternative.
Les banques, c'est un peu pareil. À un moment, il y en a qui vont commencer avant d'autres, qui vont commencer à se rendre compte que ces trucs de triple A, c'est pas triple A, c'est pas de la bonne cam. Et même, on pourrait peut-être parier contre. qui vont commencer à faire des paris. Ce truc-là, je me rends compte que c'est pourri. Et je, voilà. Il y en a qui ne voient rien venir. Un exemple qui est assez rigolo, c'est la banque suisse UBS. Au début, ils ne voulaient pas tremper dans les subprimes, apparemment. Ils trouvaient que c'était des trucs pas terribles, mais les autres banques, presque toutes le faisaient. Donc, qu'est-ce qui se passe pour UBS? Les clients disent, on a vos concurrents nous proposent du triple A à n'importe quoi, 5%, je ne connais pas les chiffres. Et vous, votre triple A, votre super sûr, vous nous proposez que du 3,5%. Donc, on perd du fric en étant chez vous. Donc, ou alors vous nous proposez le même truc, ou pas. Donc, UBS se retrouve plus ou moins obligé de se foutre dans les subprimes alors qu'ils n'en avaient pas trop envie. C'est plutôt une banque qui était réputée pour sa prudence. Et du coup, ils vont foncer dedans et ils vont faire partie des plus grosses pertes mondiales. Même on va les surnommer sur le marché « used to be smart », ce qui est un peu glauque quand on voit le truc. Donc eux, ils sont pas retirés au bon moment. Goldman, à un moment, ils ont vraiment vu venir le truc et que c'était pourri. Ils ont même fait, il y a une affaire qui avait fait un peu de bruit là autour d'un trader français qui s'appelait Fabrice Tour, qui avait inventé des produits. Alors le produit était un peu... C'était assez rigolo parce qu'il le vendait à un client en disant c'est du triple A, tout ça, c'est super sûr. Et en même temps qu'il le vendait, c'est une opération parallèle où il pariait sur la chute de ce qu'il venait de vendre. Il pariait sur le fait que ça allait se péter la gueule, et quand ça allait se péter la gueule, il allait faire du fric. Donc il fait du fric en vendant le produit, en faisant le pari, si ça s'écroule. Il y a des scènes assez incroyables où il est gagnant des deux côtés. Il y a des scènes incroyables où il y a le juge de construction qui dit « Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème, vous vendez un produit à quelqu'un en... » Imaginons qu'un vendeur de bagnole fasse ça, quoi. Je parie que le mec va se tuer dans la voiture que je viens de lui vendre. On trouverait ça un peu craignos, quoi. Et ça les a pas empêchés, ils ont fait ça à plein de billes, quoi. Donc ils ont, eux, ils ont vu venir le truc, ils s'en sont bien sortis. Ils s'en sont tellement bien sortis, d'ailleurs, que c'était l'un des premiers à parier sur la chute de la banque Lehman Brothers. Donc quand Lehman est tombé, il y a même des polémiques là-dessus, parce que quand la banque Lehman Brothers tombe, en fait, il y en a qui ont parié. Donc ils ont parié via AIG, par exemple. C'est pour ça que la première assureur s'écroule. Donc la question c'est, si on sauve AIG, il va falloir rembourser les gens qui ont parié sur la banque Lehman Brothers. Et en particulier, la banque Goldman Sachs avait parié énormément d'argent sur la chute de la banque Lehman. Donc ils se sont fait un maximum de pognon quand on a sauvé AIG. Et il y a des polémiques qui disent que tous les secrétaires au Trésor aux États-Unis, donc les ministres des Finances, sont des anciens de la banque de Goldman Sachs, historiquement. Donc à l'époque c'était Paulson, et donc on soupçonne qu'il ait voulu rendre service à son copain en disant rembourser, ils sont remboursés à 100%. Alors il y a une espèce de tradition qui fait que comme on a sauvé AIG, on aurait pu dire bon, on vous devait 10 milliards de dollars, vous aurez que 6 milliards, c'est ça ou rien, vous prenez ou pas, puis les banques prennent en général. Parce que... Et là ils ne l'ont pas fait, ils ont remboursé l'intégralité à Goldman. Donc il y a des banques qui ont été plus malines que d'autres, qui se sont fait beaucoup de fric sur la crise, en tout cas.
Alors du coup, on rembourse soit ceux qui ont parié sur la chute, soit ceux qui sont en faillite. Dans tous les cas, c'est l'État qui rembourse, donc c'est nous.
C'est ça, c'est nous qui payons. Parce qu'en fait, on n'a pas trop le choix. Sur la crise, il y a une chose à peu près dont je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas économiste, hein, mais une chose dont je suis à peu près sûr, c'est que sauver les banques, on avait plutôt intérêt à le faire. Parce que si jamais du jour au lendemain, on ne sauve pas les banques et qu'elles s'écroulent, c'est vraiment le bordel, on en a besoin. Je veux dire, on peut plus retirer, on peut plus rien faire, toutes les transactions sont gelées, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, on imagine bien, c'est le chaos social, quoi, d'un seul coup.
Oui, mais alors ce qui est dingue, c'est qu'on les a remboursés sans aucune condition.
Exactement. On leur a demandé aucune condition, ce qui peut sembler dégueulasse, enfin, moi j'ai l'impression. Et puis ils ont dit oui, il y aura d'autres contraintes pour la suite, donc des nouvelles règles plus prudentielles, ça s'appelle Bâle 3, ça doit être appliqué l'an prochain, je crois que ça fait 5 ans, puis là ils sont en train de repousser en disant on n'a pas le temps de faire le truc, enfin, c'est des institutions très puissantes, les banques, donc elles ont des lobbies très forts qui font tout pour que ça n'arrive pas. Alors, en ce moment, on a Hollande qui avait dans son programme séparation des activités bancaires, il s'en sort pas, enfin je sais pas si c'était il mentait ou s'il était plein de bonne volonté, ça je suis pas dans sa tête, mais en tout cas sa proposition pour l'instant c'est en train de se faire dézinguer, ça passera pas, il y arrivera pas.
Mais ça risque pas avec tous ces dirigeants de Goldman Sachs qui se retrouvent à la tête de pays, de banques centrales.
À la tête des banques centrales européennes, on a des dirigeants de Goldman Sachs, ouais. Ils sont un peu partout les gars de Goldman Sachs. Après, sans parler de conspiration, c'est juste des gens qui ont un peu les mêmes intérêts, qui ont la même formation, la même idéologie, qui regardent le monde de la même façon. Donc ça pose des problèmes parce qu'il y a peu de place pour des alternatives, a priori. Et quand on a des dirigeants qui menacent de faire d'autres choses, ils se font virer. Par exemple, en Grèce, Pape Andréou qui avait dit « il faut que je demande à mon peuple, je vais faire un référendum ». Et puis on dit « non, non, vous n'allez pas faire ça, puis vous allez partir, puis on va mettre un ancien banquier ». Donc là, ce qui est un peu dégueulasse dans l'histoire, c'est que donc les banques ont été sauvées, on n'avait pas trop le choix de les sauver. Les États se sont pétés la gueule d'un point de vue de croissance. Enfin, pour la croissance, ça a été terrible cette crise. Donc, du coup, ils se sont endettés. Et maintenant, on leur demande des taux plus importants, alors que c'est quand même la finance qui a créé ce trou. La dette a explosé, c'est pas une mauvaise gestion de Nicolas Sarkozy ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas de sa responsabilité à lui, je veux dire. C'est un moment, si la finance entière s'est pété la gueule, tout le monde a perdu plein de points de croissance. Tous les pays occidentaux se sont ultra endettés sur cette période-là. Et donc, on leur demande plutôt maintenant des taux plus importants à cause des errements de la finance.
Sur les ondes de Radio Canu, sur le 102.2 ou sur Internet, donc l'émission Angle Mort. On vient de s'écouter une partie de l'entretien qu'on a réalisé avec Sébastien Valigna et qu'on remercie pour cet entretien au passage. On rediffusera la suite la semaine prochaine parce que là on est un petit peu pris par le temps. Juste, donc on va rappeler, c'est une pièce qui s'appelle Tina qui va passer du 12 au 19 décembre au nouveau théâtre du 8e. 22 rue Commandant Pégou. Et donc on va enchaîner sur notre programme. On avait une petite chronique de Fabien qui va nous présenter sa chronique, enfin la première édition de sa chronique sur les zombies. Donc je lui laisse la parole.
Oui, alors puisque nous sommes dans une émission qui s'intéresse aux angles morts et aux personnes qui animent ces coins sombres, nous ne pouvions pas ne pas parler des exclus du monde des vivants, des marginaux de la société bien consciente. C'est pourquoi je vous proposerai à travers cette chronique courte. Les adeptes de la Zombie Day annuelle seront très certainement déçus par cette chronique s'ils attendent de moi une analyse du dernier film de zombies ou un exposé exhaustif sur les pratiques de sorcellerie créole. Je n'y connais rien. Malgré tout, je promets de me cultiver et de rattraper ce retard impardonnable. Je me ferai aider même par une spécialiste de la question, Alexia. Les geeks qui pourraient explorer une envolée mystique ou cybernétique sur les processus informatiques achevés mais qui restent visibles dans la table des processus, ce qu'on appelle donc des processus zombies, quitteront également rapidement les ondes car mes connaissances se limitent à ce copier-coller de la page Wikipédia. Les zombies seront plutôt pour moi un prétexte pour explorer nos pensées, perceptions et comportements inconscients. En effet, les philosophes ont inventé le concept de zombie pour imaginer des êtres identiques à nous, dans leur comportement et interaction avec le monde, mais qui n'ont pas de conscience phénoménale, c'est-à-dire pas d'expérience consciente subjective, ce que les philosophes appellent l'écalia. C'est un concept en fait qu'ils utilisent pour contrer les matérialistes qui stipulent que toute pensée a un support biologique, comme j'ai tendance à le penser. Mais n'entrons pas plus dans les détails pour l'instant, sinon je n'aurai plus rien à dire les prochaines fois. Ainsi, cette chronique s'appuiera sur quelques connaissances scientifiques et philosophiques et questionnera les comportements que nous effectuons sans conscience. Nous essayerons en particulier de nous interroger sur la place de la conscience dans l'émancipation psychologique et sociale. C'est bien évidemment un programme très ambitieux et je ne prétends pas que mes propos seront des vérités ou seront exempts d'erreurs et de raccourcis, car je ne suis pas un philosophe. Mes divagations seront plutôt des pistes de réflexion intuitive et dépendante de mon humeur, dont le but sera surtout de vous convaincre que vous n'êtes que des zombies et que ce n'est pas si grave. Un contenu hétéroclite qui effleurera toutes les disciplines, un contenu parfois trop sérieux, d'autres fois très spéculatif et sans réel fondement, mais qui, je l'espère, sera ludique. Alors, dans le désordre, j'aimerais aborder le dualisme chez les zombies, c'est-à-dire le fait que les philosophes exploitent les zombies dans le seul but de nous faire croire à l'existence de leur calia, c'est-à-dire à ces expériences conscientes, incommunicables et intrinsèques, qui ne nous permettent pas de savoir quel effet cela fait d'être une chauve-souris. J'aimerais également vous parler du collectivisme chez les zombies, oui. C'est par le biais en fait, du fonctionnement neuronal qui nous apprend l'inutilité des chefs, vous verrez. Il sera aussi nécessaire à un moment donné de revenir sur la façon dont les zombies niquent la conscience en étant les principaux acteurs de la pensée. Enfin, sur le terrain de la spéculation, j'aborderai la question du travail et je débattrai seul de l'hypothèse que si nous étions davantage conscients, nous n'irions probablement pas travailler le matin. De la même façon, nous essaierons de comprendre pourquoi, autour du 8 décembre, tous les zombies de la Terre se donnent rendez-vous à Lyon et marchent tel un troupeau de moutons en direction de nulle part. Pour terminer, et si j'ai le courage, je m'essaierai à la fiche de lecture très scolaire sur des ouvrages qui abordent de près ou de très loin la zombie attitude. Je pense pour l'instant au philosophe Pierre Kasounoguès, mais aussi à Tanks, auteur de BD et fan de No Means No. Dans le registre de la culture, j'en profite en fait pour faire de la publicité pour une soirée ciné-rock à ne pas rater. Ce sera un trio guitare, basse, batterie qui improvisera sur le film culte La Nuit des Morts Vivants. Et ça se passera au Périscope le jeudi 13 décembre à 21h. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Fantomas suivi de Naked City.
toujours sur les ondes de Radio Canu, le 102.2. Donc, autant la première émission, on avait réussi à éviter les couacs techniques à peu près, autant là, je m'en excuse, j'en ai fait plusieurs à la suite. Donc, on continue sur cette émission Angle Mort. Donc, maintenant qu'on a fait la chronique zombie, on va présenter très rapidement un documentaire et je laisse la parole à Natacha qui va le faire pour nous.
Du coup, je voulais parler. Ça y est, je me réveille. De la projection demain au cinéma Le Mourguet à Sainte-Foy-lès-Lyon. Dans le cadre d'une rencontre débat organisée par la MJC de Sainte-Foy, le cinéma Mourguet et puis Attaque aussi, je crois, d'un film documentaire qui s'appelle Deux mémoires d'ouvriers, qui est sorti en salle en février dernier, c'est un film qu'on doit à un réalisateur au Savoyard qui s'appelle Gilles Perret. Qui est un film vraiment superbe, enfin, qui va travailler la question des mémoires d'ouvriers et d'ouvrières à partir de l'histoire locale. Ça se situe en Savoie, en Haute-Savoie, enfin, en gros dans les Alpes. Le film va débuter par un interview d'un passant dans le centre-ville de Cluses. Cluses, ça se trouve en Haute-Savoie, à qui Gilles Perret demande s'il sait ce qui s'est passé en 1904 sur la place principale de la ville où il se trouve. Et le patient l'ignore. En fait, en 1904, il y a trois fils du patron d'une des usines les plus importantes de la région, c'est une usine de horlogère, qui ont tiré sur les ouvriers en grève. Trois manifestants ont été tués, il y a eu une cinquantaine de blessés. Et en fait, le film va interroger à partir de cette entrée-là la mémoire et l'histoire ouvrière et populaire locale. Il va raconter aussi les mutations industrielles de la région, en s'intéressant aux usines d'aluminium, d'acier, aux grands travaux dans les Alpes, aux barrages hydroélectriques, à la situation aussi des ouvriers paysans. Et donne donc à entendre, sans nostalgie mais sans tristesse non plus, des témoignages d'ouvriers, d'ouvrières de cette région qui racontent ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont devenus dans la mondialisation. C'est là où ça fait le lien aussi avec ce qu'on évoquait tout à l'heure à travers l'interview du metteur en scène de Tina. Donc c'est un film qui, moi, me semble assez important parce qu'il va donner la voix à une classe sociale devenue complètement invisible dans l'espace médiatique, mais également dans la classe politique, et qui représente pourtant un quart au moins des personnes en emploi aujourd'hui. Et comme souvent dans les films de Gilles Perret, l'histoire locale permet de raconter la grande histoire sociale et économique. L'histoire est donc de la culture ouvrière en général. Le travail de Gilles Perret participe d'une éducation politique à cette histoire, indispensable pour créer les conditions d'une reprise de conscience de classe, du groupe et de sa force. Et on a un petit extrait sonore de la bande-annonce du film documentaire qu'on vous diffuse tout de suite maintenant, si c'est bon.
Les gens à l'extérieur, quand on dit qu'on travaille à l'usine, en général, on n'a pas une très bonne image.
C'est peut-être la télévision qui... c'est la société du spectacle où il faut être tous beaux, tous riches. Et donc forcément, si on est ouvrier, on a l'impression d'être en bas de l'échelle.
Au début, c'est un vrai capharnaüm d'outils, de machines, de ponts qui s'entrecroisent, de bruit. C'est presque effrayant, si vous voulez.
C'était très dur, hein. Faut savoir ce que c'est que de faire 12 heures sous la pluie. Uniquement éclairé par des phares la nuit. Eh bien, franchement, c'est du pas marrant. Hein.
On faisait de nombreuses heures de travail, mais on pensait conserver la société, qu'on faisait quelque chose.
On s'entraînait nous-mêmes dans une accélération des cadences. Parce qu'on voulait vite voir l'œuvre de ce qu'on a fait. Quoi.
On est stupéfait par l'emploi du temps énorme de ces ouvriers paysans.
Travailler 8 heures à l'usine, le reste, il fallait faire en sorte à ce que ce soit fait. C'était deux journées dans la même. Une à l'usine et puis l'autre à la ferme, quoi, à l'exploitation.
Chaque jour,
Des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent.
Ils essayaient d'exploiter cette main-d'œuvre étrangère qui était très bon marché.
Moi, je travaillais à une usine qui a changé plusieurs fois de nom. Donc, ça a été la CISA, après ça a été UCAR. Je ne me rappelle plus des changements. Ça a été Union Carbide, UCAR, Carbone France, Graftech, enfin, j'ai du mal à suivre.
Ça s'est fait un coup de milliard à la bourse. On est une ligne sur un bilan comptable, et point barre.
Le progrès, il est pour qui? Pas pour ceux qui travaillent, le progrès. Pour les actionnaires.
Moi, je pense qu'il y aurait peut-être besoin de se reposer des questions.
Donc voilà, un film projeté demain au cinéma Le Mourguet, au cinéma Mourguet, à Sainte-Foy-les-Lyons, à 20h.
Et on enchaîne avec une chanson qui s'appelle... une chanson de Hippie, pardon. Toujours sur Radio Canu, l'émission Angle Mort. Yeah. Radio Canu 102.2, la mission Angle Mort, émission de critique sociale et d'expérimentation sociale. On vient de s'écouter la chanson Blind Eyes, Blind Lives du groupe Winch Hunt, un groupe de hardcore punk de Philadelphie, sur un album qui date de 2009 qui s'appelle Burning Bridges to Nowhere. On va bientôt terminer l'émission, on va se faire une petite annonce avant de lancer une dernière musique et on laissera la place au futur.
Oui, alors pour les amateurs de rock un peu bourrin, on voulait faire un petit clin d'œil à nos copains. Mercredi soir, donc 12 décembre à 20h au Transborder, soirée Le Père Noël et ses rockers. On entre avec un jouet neuf d'une valeur minimale de 10 euros, pas de peluche, des jouets à piles et puzzles, c'est proscrit. Voilà, on aura un Common Man from Mars, Hysterical, Tiger, Calmos, Jail, comme des vierges. Et puis un petit clin d'œil aussi à nos copains de Warm Audio, au concert des Burning Heads vendredi soir prochain. Voilà.
Et donc on écoute la dernière chanson de cette émission, qui c'est une chanson de House Rotten, à ne pas confondre avec Uncommon One from Mars, effectivement. Donc un groupe d'anarcho-punk, voire crust anarcho-punk des années 90, avec la chanson The World Bank. Et ça va plutôt bien aussi avec le thème de l'émission d'aujourd'hui. À la semaine prochaine, c'était l'émission Angle Mort.